Vous écoutez Logosphère, l'émission de reportages et d'entretiens, de rencontres et de réflexions. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est Logosphère sur les ondes d'univers. Alors nous sommes ici à Étonnant Voyageur, au festival Étonnant Voyageur, festival littéraire à Saint-Malo, et nous sommes avec Antoine Galardeau. Bonjour.
Bonjour.
Antoine Galardeau, vous êtes fondateur, éditeur, fondateur de la maison d'édition La Boucherie Littéraire, et nous sommes avec Laure Anders, qui est publiée aux éditions de La Boucherie Littéraire, alors qui se situe dans le Luberon, c'est bien ça? Est-ce que vous pourriez tout simplement nous dire depuis quand existe cette maison d'édition, votre maison d'édition?
La maison d'édition était installée initialement dans l'Luberon, aujourd'hui elle est dans l'enclave des Papes, toujours dans le Vaucluse. Et la maison d'édition a été créée en 2014 et première publication en janvier 2015 avec un texte de Thomas Vineau accompagné d'illustrations de pommes de terre sculptées d'un plasticien suisse qui s'appelle René Lovy.
Alors, d'où venait cette envie justement de créer une maison d'édition, et notamment en poésie?
L'édition et l'édition de poésie, c'est quelque chose qui m'habite depuis très longtemps. Mais simplement, on n'est pas toujours prêt aux différents moments de sa vie de se lancer. Et ce sont souvent des rencontres qui nous permettent de le faire. J'ai rencontré René Lovy en 2014, qui faisait une résidence d'artiste dans le sud du Luberon. Et un jour, en lui présentant Thomas Vineau, ils ont travaillé ensemble et on a fait une grande exposition autour du travail de René, qui a donné lieu à un moment donné une sorte de livre sur un mur et qui m'a dit « Regarde, on dirait un livre ». Et la maison d'édition est née à ce moment-là.
Alors, le nom de la maison d'édition, on le retient bien, La Boucherie Littéraire. Expliquez-nous aussi comment c'est venu et pourquoi.
La Boucherie Littéraire, c'est une histoire encore plus ancienne qui date du début des années 2000, où j'ai créé une librairie dans le Luberon qui s'appelait La Boucherie Littéraire. Dans le Luberon, il y a une charte graphique pour le parc régional du Luberon qui nous interdit d'avoir des enseignes lumineuses. À un moment donné, dans la recherche de locaux, je suis tombé sur une ancienne boucherie qui avait une enseigne lumineuse. Et je me suis dit, pourquoi pas créer la boucherie littéraire. Je n'ai jamais pu avoir le local. Et pendant tout le temps où j'ai recherché un local pour créer ma librairie, les gens me disaient, alors, vous en êtes où avec votre boucherie? Et c'est resté, les gens avaient intégré le nom et je l'ai gardé.
Est-ce que vous pourriez nous parler justement de la publication, enfin des différentes publications, les poètes que vous pouvez publier, l'esprit, si ce n'est une ligne éditoriale, l'esprit des textes que vous pouvez accueillir dans la boucherie littéraire?
Je ne publie que des auteurs vivants pour le moment, que de la poésie. Le choix se fait en fonction des rencontres, en fonction de d'où viennent les textes. Laure m'a fait un jour un message sur Facebook. C'est la seule à avoir fait ça et j'ai accepté le texte. Et pourquoi, on ne sait pas. Enfin, si, le texte est très bon. Il est devenu aujourd'hui la meilleure vente de la maison d'édition, sans ligne en amont. Des textes d'auteurs que je croise sur des festivals ou je vais lire sur des blogs, enfin voilà. Et la ligne éditoriale, en fait, elle ne correspond qu'à ma sensibilité. Donc je peux pas. Il suffit de tomber sur un bon jour, tout simplement. Et j'essaye de publier autant que possible un auteur inconnu ou peu connu tous les ans ou tous les deux ans. Et puis j'essaye aussi de travailler et d'être en compagnonnage avec les auteurs avec qui j'ai commencé à travailler il y a bientôt 10 ans.
Alors Laure Anders, justement, est-ce que vous pourriez nous parler de cette rencontre avec Antoine Galardeau de la Boucherie Littéraire?
C'est la rencontre éditoriale la plus récente, parce que j'ai un rapport intermittent avec l'écriture. Je n'écris pas de façon régulière. Et ça correspond, pour que ça ait du sens, à des moments particuliers de ma vie. Donc c'est vrai que j'avais jamais publié de poésie. Et en fait, quand je t'ai envoyé ce texte, je connaissais tes livres. J'aimais déjà j'ai pas envoyé au hasard. Je connaissais l'identité un petit peu de cette maison d'édition. Je voyais qu'Antoine publiait beaucoup de femmes et que ses textes avaient quelque chose, une accroche avec le réel, quelque chose d'une forme de simplicité, un lien avec le quotidien. C'était pas une poésie évanescente et très abstraite. Je sais qu'il y a des amateurs pour ça, mais moi je veux quelque chose qui soit très ancré dans la chair, le quotidien. Et je retrouvais ça dans tes publications. Par ailleurs, je trouvais que tes textes étaient beaux, de beaux objets, du beau papier, des vrais choix esthétiques affirmés qui font qu'on remarque les livres sur un stand parce que voilà, ils sont colorés, il y a cette qualité du papier. Donc tout ça fait que c'était un hasard sans en être un. Après, tu aurais très bien pu ne pas avoir envie de ce texte. Et la rencontre est intéressante parce qu'en fait, ce texte était dans un format extrêmement court. C'était vraiment un micro-texte, ce qui le rendait d'autant plus difficile à trouver une niche. Et honnêtement, je ne partais pas gagnante là-dessus. Et en fait, ça correspondait, je vais te repasser le relais, à un moment où tu avais un désir de créer une nouvelle collection. Je te passe le relais.
En 2018, j'ai créé une collection qui s'appelle « Carnet poétique », « Carnet comme la viande ». En fait, tous les noms des collections de la maison d'édition sont en lien avec la boucherie, la collection sur le bio, la collection sur le bio pour tous, la collection la feuille et le fusil, la feuille étant le plus grand couteau en boucherie par exemple, et le fusil aiguisé, et une collection carnet poétique, carnet comme la viande. C'est ce que j'appelle les steaks du boucher. Ce sont des livres qui sont, le but est de se réapproprier chacun le livre, désacraliser la poésie, écrire dans le livre, prendre le livre pour, enfin, c'est un livre objet. Et donc on a quatre papiers de création, une couverture crue ou cuite à la texture selon les goûts de chacun, la chair du livre rose sur le péritexte, le gras du lecteur, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup de pages blanches pour pouvoir écrire soi-même à son tour, et à cœur, la viande de l'auteur, donc un papier rouge, ce qui donne les voilà. Et donc j'ai proposé ça à Laure et un premier titre donc de Laure sans lien amant, et en même temps Note de bois à Thomas Vinot. On a sorti ça en se disant, tout le monde m'a dit c'est fou, ça ne marchera jamais, personne ne va acheter des livres avec des pages blanches. Et aujourd'hui, ce sont les livres qui se vendent le mieux avec des tirages plutôt très conséquents pour la poésie.
Est-ce que vous pourriez nous parler justement aussi de ce contexte de publier des textes de poésie, ce qui n'est pas la chose la plus aisée dans l'économie du livre?
Pour faire simple, la poésie, ça représente 0,03% des ventes en librairie. On est vraiment très très loin de faire l'unanimité parmi les lecteurs. La France n'est pas un pays où la poésie est culturellement ancrée. Nous, c'est plutôt le roman, on va dire. Enfin, c'est le roman en France. Je ne suis pas un artisan dans le sens où je ne fabrique pas les livres, mais je pense que éditer est un acte de création dans le sens où certaines collections ont 3, 4, 5 papiers différents. Je travaille avec différents types d'imprimeurs. Et dans ce cas-là, je vais donner effectivement à chaque livre une particularité physique différentes en fonction des collections. Donc je vais faire en sorte de travailler avec des imprimeurs en France pour pouvoir être en lien avec eux, discuter, faire des essais ensemble, voir comment on peut travailler pour arriver au livre le plus beau et le plus adapté au texte, parce qu'il faut vraiment que ce soit en lien et pas un prétexte. On n'est pas là pour faire joli, on est là pour que c'est du sens. Et à côté de ça, je travaille beaucoup avec un papetier italien qui s'appelle Fedrigoni, qui fait des papiers teintés dans la masse, et d'autres papetiers encore, enfin Arctic Paper récemment avec la crise entre autres du papier qui nous a tous touchés. Voilà, et je suis toujours intéressé à découvrir de nouveaux papetiers.
Un éditeur dans le travail d'écriture, dans le travail d'écrivain et de poète, justement, est-ce que ça fait partie du... Comment dire, le processus d'édition fait partie de l'écriture en tant que tel? Pour quelqu'un qui écrit, quelle est l'importance justement de cette relation avec l'édition, avec l'éditeur ou l'éditrice?
Il y a plein de facteurs qui jouent. Même quand on s'efforce de fournir un texte qu'on estime le plus abouti possible, à l'instant T de l'envoi, c'est toujours passionnant de voir que ça peut toujours être amélioré. Et moi, ce qui m'a plu dans le vrai dialogue qu'on a eu, parfois c'était des bras de fer, c'est que tu argumentais toujours. Par exemple, je prends un exemple extrêmement précis que je trouvais pertinent. Peut-être justement, ça va être plus parlant. J'avais mentionné deux ou trois fois des marques dans ce texte. Et tu m'as dit, je ne veux pas avoir de marque. Et tu m'as expliqué pourquoi. Et j'ai trouvé que finalement, ça se défendait. Tu ne souhaitais pas qu'il y ait un ancrage trop actualisé par rapport à des objets manufacturés. Alors, bon, paradoxalement, on est comme sur une poésie de la proximité du quotidien. Donc il y avait un paradoxe, mais je trouvais que ça, c'était pertinent. À d'autres reprises, par contre, j'ai défendu mes points de vue. Je ne me souviens plus lesquels, peut-être parce que... Et en fait, si vous voulez, donc, pour reprendre la synthèse de votre question, c'est un dialogue permanent dans lequel on ne lâche pas nécessairement tout le temps prise du même côté, mais il faut qu'il y ait ce dialogue, et sinon il y a une frustration, je pense, possible, soit parce qu'on a le sentiment que si l'éditeur dit rien, il n'a peut-être pas totalement fait son job. Dire quelque chose ne veut pas nécessairement dire qu'on va s'incliner, mais voilà, donner son point de vue. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait ce dialogue, cette confrontation de deux regards différents. Est-ce que j'ai bien répondu ? Ok.
Antoine Gallardo, de votre point de vue.
Bah, je rajouterais qu'en fait, il n'existe pas de texte en poésie qui arrive tout frais, tout propre, parfait à la publication. On doit retenir peut-être un ou deux poètes par siècle, vraiment, mais ils ont dû retravailler leurs textes eux aussi. Mais je pense effectivement que l'auteur a quelque chose qui lui est intrinsèque et qu'il va forcément défendre bec et ongle, mais en même temps, il y a une différence entre publier un texte. Un auteur n'aura jamais besoin d'un éditeur pour écrire. Mais c'est à partir du moment où le texte va devenir livre, où on est deux, parce que c'est notre livre en fait, c'est le texte de l'auteur, mais c'est notre livre, on le travaille ensemble. Moi, pour le coup, j'ai pas mes tripes comme eux ont pu l'avoir au moment où ils l'ont écrit, donc j'ai un recul, un regard, et je vais pouvoir pointer des choses, parce que je pense qu'en fait, un texte n'a pas la même couleur d'un éditeur à l'autre. Et s'il aurait proposé son texte à deux ou trois autres éditeurs, les deux ou trois autres éditeurs auraient demandé peut-être un retravail, mais pas au même endroit, en fait. Voilà. Et je crois que l'exemple le plus fort, c'est que le titre du livre est dans le recueil, ou presque, puisque « Sans ligne en amont » n'est pas le titre que tu avais choisi initialement.
Tout à fait. Et c'est un très bon exemple. J'ai effectivement... j'étais très, très fière du premier titre, qui était « Je vous embrasse ». Et finalement, on a eu un cas de bras de fer à ce sujet. Et aujourd'hui, je suis très heureuse que tu aies choisi « Sans ligne en amont », parce que je pense que ça parle plus aux gens, effectivement. Comme quoi... Mais on n'a pas toujours le recul nécessaire. Et moi, je fais vraiment confiance à Antoine sur le professionnalisme et le recul. En ce sens, je pense que tu es vraiment un éditeur digne de ce nom, pas démissionnaire et avec de très bonnes idées. Quoi. C'est vraiment un cri du cœur. Non, c'est très sincère.
Évidemment, ces livres-là, on peut les trouver donc sur des salons comme celui-ci, le Étonnant Voyageur. C'est un moment important aussi de pouvoir... partager ces textes à travers leur vente, mais aussi à travers le fait de pouvoir présenter en public à travers des rencontres notamment.
Étonnant Voyageur, pour les petits éditeurs comme la Boucherie Littéraire, ne nous permet pas. On n'a pas de visibilité, on n'a pas de possibilité de présenter nos textes ou nos auteurs. Par exemple, ils ont invité Thomas Vinot, mais Thomas Vinot vient pour les grandes maisons d'édition, pour Thierry Magnier, pour le Castor Astral. Il a fait trois titres à la Boucherie Littéraire. Et qui sont un peu plus anciens, donc Thomas ne va pas lire les textes un peu plus anciens. Donc, pour le coup, Thomas Vinot est là, mais moi, en tant qu'éditeur, j'en profite pas, entre guillemets. Mais c'est important d'être ici parce que c'est pas que les lecteurs, c'est aussi les bibliothécaires, c'est aussi les gens de la presse. C'est tout un tas de personnes qui vont permettre en fait à nouveau de faire partie de cette constellation qui va permettre à la poésie d'aller au-delà de la page, déjà de ce moment de solitude où l'auteur pose ses mots sur la page et de cette autre page que je vais faire imprimer et que j'espère que beaucoup vont rencontrer en lecture en fait. Maintenant, les livres de la Boucherie Littéraire, on peut les commander dans n'importe quelle librairie en France, mais également en Belgique, en Suisse et n'importe où à l'étranger. Je ne fais pas de vente en direct, extrêmement rarement. Quelques salons du livre, dont est ton nom Voyageur. mais le reste du temps, tous mes livres se trouvent en librairie ou sont commandables en librairie.
Si vous deviez donner une définition de la poésie, ou du moins un sens à ce qu'on met derrière ce mot poésie, pour les auditeurs justement, est-ce que vous auriez quelques mots à dire autour de ça ?
La puissance d'évocation, faire ressentir plus avec le minimum de mots, la densité des mots.
C'est un vieux jeu et un vieux match que nous proposent à chaque fois les médias et tout un tas de gens de définir quelque chose qui n'est pas définissable. Et c'est extrêmement dangereux de définir la poésie. Ceci dit, pour moi la poésie c'est simplement une expérience. C'est l'expérience par l'humain, c'est l'expérience par l'écriture, c'est l'expérience par l'intime. C'est une expérience.
Très bien.
La poésie, c'est la viande.
Oui, je voudrais rajouter quelque chose pour le coup après ça. À la boucherie littéraire, on produit des livres. Je suis éditeur et non boucher, je tiens à le préciser, parce que si quelques-uns d'entre vous souhaitaient m'inviter, je ne mange que des huîtres.
C'est noté. Eh bien, merci. 18, c'est merci Antoine Gallardo, éditeur pour la maison d'édition La Boucherie Littéraire, et Laure Anders, qui est publiée dans cette maison d'édition. Rappelez-moi juste le titre.
Sans ligne à un amant et Des forêts de couleuvres, qui est le plus récent.
Merci à vous pour cet entretien.
Et s'ils filent tous dans la lune, qui restera garder notre terre avec ses dunes, ses mers, ses vergers? Et s'ils cultivent les planètes, qui gardera les yeux sur les blés, les pâquerettes, les forêts de nos aïeux? Eh bien va, nous serons les concierges de la terre qu'ils nous auront donnée, et nous frôlerons les 120 berges puisque nous pourrons nous promener, et nous ferons sans nous presser quelques petits jardiniers. Et s'ils nous envoient des nouvelles, s'ils nous disent venez par là-haut, la vie est belle, on n'est plus léger. On a trouvé dans les étoiles un fruit qui fait vivre 1000 ans, une usine monumentale en fait un liquide blanc. Eh bien va, nous soignerons les vignes de la terre à ces nouveaux matins, et à moins d'avoir bien de la guigne, nous en tirerons de beaux raisins, et nous ferons peut-être bien de petits buveurs de vin. S'ils nous disent leurs découvertes, leurs hivers phosphorescents, où tombe une neige verte, leurs étranges océans, plus dépeuplés qu'une mer morte, mais cerclés de gros oiseaux blancs, dont la chair le diable l'emporte, et mi-vache, mi-merlan, eh bien va, nous irons à la fraîche, sur la mer qu'ils ne connaîtront plus, et rapporterons de notre pêche les plus vrais poissons que l'on ait vus, et nous ferons à temps perdu de petits pêcheurs de plus. Un jour, après un long périple, ils reviendront chez nous à bord d'une fusée triple en métal de n'importe où. Là, pensant trouver une lune pas encore explorée, s'émerveilleront voyant une plaine verte et des champs dorés. Alors va, nos fils sauront leur dire qu'on n'est pas si mal sur ce plancher, qu'on y prend encore le temps de rire, qu'on y prend encore le temps d'aimer, mais qu'ils peuvent toujours rester comme apprentis jardiniers. Comme apprenti jardinier. We'll be right back.
when all the world is green. The face forgives the mirror, the worm forgives the plow, the question begs the answer. Forgive me somehow. Maybe when our story's over, we'll go where it's always spring. The band is playing our song again. All the world is green. Pretend that you owe me nothing. Summer brings, it's a love you'd kill for, and all the world is green. He's balancing a diamond on a blade.